Bonjour tout le monde, bienvenue au 10e épisode du podcast des équipements Marquis. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec Tom Fredette.
Allô, allô.
Et on a le plaisir d'avoir Timo qui est notre représentant avec la compagnie AFM Forest.
C'est ça.
Alors Timo, on va prendre quelques minutes, si tu veux te présenter, nous dire de où est-ce que tu nous viens, puis comment t'es venu ici aujourd'hui, puis okay. Comment t'en es rendu ici.
Ok. Ben, tout d'abord, je voudrais quand même remercier le Canada pour avoir bien joué au hockey cette année.
Donc, ça part bien, ça.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même un pays qui est gros comme la moitié du Québec. Là.
Fait que tu viens d'où, Timo?
Bon, je viens de la Finlande.
Ok.
Je sais qu'il y en a qui se posent la question. Voyons, parle donc bien pour un gars qui vient de la Finlande. Ouais, mais c'est parce qu'il est à moitié français. Cousin de la France.
Hein, fait que t'es né en France, tu résides en Finlande maintenant?
Ouais, donc en fait, moi je suis né en France, donc mon père il est français, ma mère est finlandaise. Donc j'ai habité là-bas pendant 13 ans. Et depuis tout petit, on avait comme une maison familiale en Finlande, et puis on avait l'habitude de passer nos étés là-bas. Et puis vraiment tout petit, je suis passionné par la foresterie en général.
Ok, ça a commencé où? Tu me dis que depuis que t'es petit, c'est la famille ou c'est vraiment...
On va dire c'est un peu côté famille aussi. J'avais mon grand-père qui travaillait dans le bois. Dans le bois, donc je pense que c'est venu de là. Et puis les machines en général, ça m'a toujours passionné. Donc voilà, et puis après le jour où on a déménagé en Finlande, donc j'avais 13 ans, on s'est pas posé de questions, on est parti direct dans la foresterie.
Ok, voilà. Fait qu'à partir de l'âge de 13 ans, tout est dans les machines puis tout ça là?
Bah à peu près ouais, donc...
Fait que ça a commencé comment?
En Finlande en général, on a donc à l'âge de 16 ans, on peut avoir la possibilité de faire une école professionnelle.
Okay.
Comme on appelle ça. Et puis donc c'est une école qui dure 3 ans. Donc pendant les 3 années, ils vont t'apprendre un métier. C'est soit ça ou soit le collège ou lycée, comme on appelle par chez nous.
Okay. Fait que toi, t'as choisi l'option de la foresterie.
Ouais,
fait que c'est un peu comme ici, là, c'est des machines porteurs, rabatteuses.
Ouais, donc nous vraiment en Finlande, ça va être 95%, même plus, de machines sur roues.
Non, j'ai jamais vu de machine à trac en Finlande.
Il y en a très peu. Ce sera vraiment quelqu'un qui aura son excavatrice,
ouais.
et qui va vouloir, pendant les temps où il n'y a pas de job dans l'excavation, il va modifier son excavatrice pour faire du forestier un peu. Mais c'est vraiment très minime. Je veux dire,
C'est parce que c'est le terrain ou c'est vraiment juste les gens aiment mieux ça ou...
Ben, le terrain il est pas mal, et puis comparé ici, mais les machines aussi à roues, elles ont beaucoup évolué.
Faut pas oublier que, tu sais, on parle d'équipement forestier, la Finlande, c'est là où ça a commencé. Là.
C'est ça.
Ouais,
c'est
ouais.
Ça. Donc, on n'enlève rien à Suède, là, mm-hmm. Mais...
Non, mais les deux, tous ouais, les pays, ça vient fait... vraiment des pays scandinaves.
OK, fait que la technologie est rendue là, puis ils ont les machines pour le faire.
L'évolution puis la compréhension de la machinerie est différente là-bas.
Nous, depuis vraiment, les machines à roues, ça a commencé dans les années 80. On avait déjà les premières machines à roues avec les premières multi dans les années 80. Donc ça fait vraiment depuis longtemps que ça existe. C'est vraiment les pays scandinaves, c'est un des pays pionniers dans la foresterie.
Ok, fait que t'as fait ça combien de temps?
Donc après l'école forestière qui a duré 3 ans, donc en Finlande, ils t'apprennent vraiment bien de A à Z, vraiment comment former un opérateur. Donc tu vas commencer vraiment avec des cours de mécanique au début.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, 3 ans c'est un cours, là, c'est la plupart des cours aussi, on parle de 1 an là-dedans,
ouais,
3
ouais.
ans ça me semble être,
ouais,
on apprend
c'est
bien.
C'est vraiment spécialisé dans la foresterie, puis après justement tu peux avoir le choix de te spécialiser dans quelque chose, donc soit chauffeur de porteur, chauffeur de bûcheuse ou technicien. Donc ta première année on va être comme tous ensemble, et à partir de la deuxième année, tu vas être séparé dans différents groupes et ils vont te spécialiser vraiment dans ta job. Donc à partir de la deuxième année, ils vont te former pour la job que tu veux. Et la troisième année, en général, ça se passe vraiment dans des entreprises. Donc on part dans des entreprises et on
travaille. Ouais, l'expérience, c'est ça qui est beaucoup plus important dans tous les domaines.
Et vraiment, en Scandinavie, en général, et même dans le sud de l'Europe, ça commence à changer beaucoup. Les opérateurs, ils sont vraiment très autonomes. Donc, c'est vraiment savoir réparer une machine. L'opérateur, il va devoir vraiment faire les chantiers. Donc, il n'y a personne qui vient marteler les arbres comme au Québec. Même les limites, en général, ne sont pas souvent marquées. Donc, on travaille avec GPS, mais c'est quand même l'opérateur qui va tout.
OK, fait que c'est plus un one-man band. Là. Vous faites tout le travail, puis vous êtes éduqué pour le faire. Fait que c'est super bien.
Donc, en tout, moi, je vais dire qu'un bon opérateur, s'il part vraiment de 0-0, il faut à peu près 5 ans pour qu'il soit vraiment quelqu'un de productif.
5 ans
optimal, ouais.
En incluant l'école ou
Incluant,
OK, excellent. Fait que t'as fait l'école, t'es sorti, t'as commencé à travailler pour la business familiale ou...
Non, pas du tout. Donc, nous, notre famille avait pas de machine.
OK.
Donc après, j'ai commencé dans différentes entreprises dans le centre de la Finlande. Donc voilà, j'ai travaillé après pendant, on va dire, 5 ans et demi.
Okay, tu faisais le porteur?
Non, en général, on commence toujours par le porteur. Donc, on forme les opérateurs sur des porteurs vraiment la première année, quand on fait la mécanique, tout ça. Puis après, à partir de la deuxième année, on choisit. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé que sur des bûcheuses.
OK, t'as fait des bûcheuses. OK, ouais. je t'ai vu opérer un porteur. Fait que je croyais que t'étais habitué là-dessus, mais t'étais un opérateur de bûcheuses.
C'est ça.
Parfait. Fait que c'est quoi qui t'a fait que t'es allé chez AFM? C'est comment ça s'est passé, ce processus-là?
Quand j'ai commencé à travailler vraiment dans le bois, c'était vraiment une passion. Mais je sais que j'avais, on va dire, comme un background, je savais parler plusieurs langues et je voulais vraiment utiliser cette...
Toutes les ressources,
c'est un atout.
Et puis dans le bois, j'avais pas la chance en Finlande de parler le français, ni l'anglais, ni les autres langues. Donc après, j'ai commencé un peu à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et puis j'ai rencontré le team AFM sur un show forestier en Finlande, sur Finmetco.
Metco.
Voilà, donc j'ai rencontré Pauli et puis toute l'équipe. Et puis, ils avaient une job d'ouverte à ce moment-là, fait que je suis rentré là-bas.
OK, cool. Voilà. Fait que parle-nous de ce que tu fais maintenant avec AFM, puis parle-nous un peu de la compagnie, c'est pour les gens qui ne connaissent pas ça.
Ouais. Donc AFM, c'est une société qui est très, très âgée. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, on a commencé dans les années 80. Et AFM était un des premiers à avoir une tête d'abattage, une vraie tête d'abattage comme on a aujourd'hui, pas processeur.
Ouais.
Donc il y avait vraiment toutes les hausses qui venaient de la machine de base. On n'avait pas de distributeur hydraulique sur la tête.
Old school.
C'était vraiment old school.
OK, fait que vous êtes dans les pionniers vraiment des têtes à rouleau.
C'est ça. Et puis en plus de ça, on avait les machines de base. Et puis on avait aussi on avait une bûcheuse qui était déjà à 8 roues à ce moment-là. C'est bien dommage que ça soit un peu arrivé comme trop tôt.
Ouais.
Mais bon, après les années 80, avant les années 90, ça a vraiment été plus difficile dans le monde entier. Il y a eu un crash général.
Ouais.
Et puis AFM a décidé vraiment de se concentrer que sur les têtes d'abattage. Surtout aussi parce qu'on a beaucoup de compétitions en Finlande et en Suède. On a vraiment, je veux dire, on a Ponsi, John Deere, toutes les machines à roues, Rottne, c'est tout fait en Scandinavie. Donc nous, on a vraiment voulu se concentrer sur les têtes d'abattage et surtout les têtes qui se mettent sur des machines à trac. Donc tout ce qui est excavatrice et puis bûcheuse dans le style que vous avez ici en Amérique du Nord.
OK.
Voilà.
OK. Puis toi, ce que tu fais exactement avec AFM, c'est?
Donc moi, au début, quand je suis rentré chez AFM, je m'occupais des pièces. Et puis en Finlande, on a ouvert un webshop en Finlande. Donc c'était vraiment l'agrandir. Et puis voilà. Et puis en 2014, j'avais fini mes études. Je faisais des études d'ingénieur forestier en parallèle du travail. Donc je travaillais pendant les semaines. Et le week-end, j'étais comme à l'école pour devenir ingénieur. Et puis à la fin des études, donc j'ai commencé à travailler pour AFM et dans le côté vente et on va dire agrandissement des territoires, développement des territoires pour AFM.
Ok, fait que là, c'est là que tu es rendu dans le fond aujourd'hui. C'est pour ça qu'on te voit souvent. Tu viens faire ton tour au Canada
c'est ça.
Assez régulièrement pour représenter la compagnie.
Ouais, et puis voir vraiment le feedback des clients, de nos revendeurs. On a plusieurs revendeurs à Star au Québec. Donc vraiment le feedback des clients et des revendeurs, ouais. C'est très important aujourd'hui. Chaque pays, chaque continent, c'est totalement différent. On doit vraiment adapter nos produits, nos façons de travailler par rapport à la demande des clients.
Ouais, puis je pense que c'est très apprécié des clients. Je pense que à chaque fois que tu viens, tous les clients t'ont l'air de te connaître, t'ont déjà rencontré. C'est super apprécié. Puis
Non, c'est sûr. Bah, c'est vraiment très important aujourd'hui, ouais. Pour amener le feedback le plus rapidement possible à l'usine pour vraiment s'adapter. Surtout au début, là, on a commencé à zéro ici au Canada, au Québec.
On commence avec un nouveau marché, les climats sont pas pareils, les méthodes de travail sont pas pareilles,
la forêt est différente.
Mmh. Fait que c'est de s'adapter le plus rapidement possible pour pouvoir mieux servir dans le fond la clientèle.
Absolument. Fait que si on y va pour la raison de ton voyage cette fois-ci, on avait une démo, la démo Barco en forêt la semaine dernière, fait que t'es venu faire un petit tour.
Voilà, donc on avait une belle
démo. On avait eu de la belle météo.
Ouais.
Ça c'est valé une fois de plus, on a bien timé la météo. On a eu, je te dirais, près de 80 personnes qui sont déplacées, qui sont venues voir la Barco 240 avec la FM 65. On avait le petit porteur 612 qui était là aussi. Mm. Ça fait vraiment du plaisir. C'était quelque chose qu'on va définitivement refaire dans le futur. C'est plaisant de pouvoir justement sortir les forestiers, les voir dans un différent contexte.
Mm, absolument.
C'était vraiment, vraiment plaisant.
Peux-tu me parler de tes premières impressions de la machine? C'était une des raisons qu'on a fait la démo, c'est parce que Barco, c'est une nouvelle ligne qu'on a fait rentrer.
C'est ça,
on les avait pas vus travailler encore.
On a commencé avant la démo, bien sûr, on a pris la machine, on l'a envoyé sur un chantier à un de nos clients, Carl La Tendresse. Merci beaucoup, Carl, vraiment passé du temps pour avoir donné ton feedback sur la machine. Fait qu'on a passé 2 jours et demi environ. Ajuster la machine, prendre le feedback de l'opérateur pour faire les ajustements. Et puis, je te dirais, en général, premières impressions, on est vraiment, vraiment satisfait de la performance de la machine. Autant la consommation de fuel, la force de traction, la vitesse de la machine, la force de swing. On a vraiment, vraiment eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs sur le setup qu'on avait pendant la démo.
OK. Puis... est-ce qu'il y a des c'est quoi tu regardais dans le fond? Est-ce que tu avais des craintes? Puis peux-tu me parler de ce...
Ben, avoir des craintes, c'est sûr
que... Ou les craintes des clients plus que ce que les clients...
Beaucoup, s'il y avait des clients qui avaient peur de la stabilité, c'est un nouveau produit, fait que tout, on peut dire que quasiment toutes les craintes étaient là. Mais tu sais, on a vraiment pris le temps de faire essayer la machine à plusieurs clients la journée même. Fait qu'on a embarqué dans la machine, on faisait l'ajustement des boutons pour que le client puisse l'essayer. Et puis, tu sais, il y en a qui pensaient que la machine pourrait être vraiment, vraiment instable, qui est vraiment pas le cas. La force de traction aussi, c'était un questionnement, puis c'est vraiment pas un problème. Je te dirais, en général, tu sais, la machine a vraiment, vraiment bien performé. Puis, je pense que les clients sont satisfaits aussi de ce qu'ils ont pu voir et essayer aussi.
Ouais.
Puis de ton côté, Timo, est-ce que tu trouvais que la machine fitait bien avec la tête AFM 65?
Vraiment bien, je pense que c'est vraiment un bon setup,
ouais, très bon match.
Un bon compromis. Et puis bon, aussi, on a, comme on dit tout à l'heure, on a pris le temps vraiment de setuper tout ça, vraiment de faire des bons ajustements avec notre client Carl qui nous a beaucoup
aidé. Dans les étalonnages, Carl qui a déjà une AFM 65, voilà. Donc il sait qu'est-ce que la tête est capable de faire et ce qu'il recherche. Fait que ça l'a vraiment aidé pour avoir un bon feedback positif, puis constructif aussi. Ce qui nous permet, nous, de pouvoir ajuster et mettre la machine vraiment là, pour que ça travaille bien la journée de la démo aussi.
Ouais.
Okay. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'avoir Carl ici aujourd'hui. C'est lui qui l'a opéré majoritairement. Tu peux-tu me donner un peu de son feedback, vu que lui, justement, a une machine similaire avec la même tête? Peux-tu me parler de ça?
Son feedback, c'est sûr que je pense que Carl, il a définitivement adoré la machine. Tu sais, passer d'une machine plus vieille, une machine neuve. Sûr que lui, la force de traction, ça a été quelque chose qui l'a vraiment impressionné versus sa machine à lui, beaucoup plus de force de traction, beaucoup plus vite aussi sur les tractions, puis aussi la force de swing qui était un autre avantage, là, vu que la Barco a deux moteurs de swing. Fait qu'il dit que c'est quelque chose, c'est avec, à pleine extension avec un bois franc dedans, swinguer la machine, c'était pas un problème, là, puis même travailler dans des pentes pour se relever. Il dit que c'était vraiment même pas une question que tu te posais, tu tasses le bras puis ça te dit va.
Puis la consommation
aussi. Consommation.
Un gros point fort.
Fait que, tu sais, on était une consommation d'environ 18 litres à l'heure versus le 30 litres à l'heure de sa machine. Fait que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de différence, là.
OK. Puis, je sais que c'est pas nécessairement une question que tu veux peut-être entendre, mais il n'y a pas de machine parfaite. Est-ce qu'il y a des points qui sont plus à travailler?
Les points à travailler sur la machine, honnêtement, ça dépend de quel point de vue. Chaque machine, si on écouterait les clients, on aurait une machine qui aurait une valeur d'approximativement 7 ou 8 millions.
C'est ça.
Et puis, il y a tellement... À la fin de la journée... Les commentaires négatifs qu'on a eus, je peux dire, c'était carrément une question de goût.
C'est plus ça que...
Puis tu sais, des goûts, c'est non discutable. Tu sais, je peux pas...
Ouais, c'est ça. C'est
des points améliorés encore là. Je pense qu'honnêtement, pour la machine que là, peut-être que oui, il y a des points améliorés, mais ça va être des affaires mineures. Je dirais, en général, les points importants sont right on où ce qu'ils devraient être.
Oh, c'est excellent. Dans le fond, c'est le but de faire la démo, c'est de voir s'il y aurait vraiment des trucs qui clochaient. On les aurait trouvés. Là, la machine, elle a quand même bûché très intensément avec plusieurs opérateurs différents pendant deux jours complets. Puis je pense qu'il n'y a pas de point qui a l'air de ressortir.
Non.
Je veux dire, je pense que s'il y aurait eu quelque chose, tu nous l'aurais dit malgré le fait qu'on ait des dealerships.
Non, sérieusement, tu sais, les clients, c'était question, tu sais, il y avait des clients qui voulaient avoir, mettons, qui ont adoré la 240, mais personnellement, ils auraient pris une 260, exemple, s'ils auraient fait un achat. Il y en a qui auraient voulu le mot télescopique au lieu du mot court. Mais tu sais, comme que je dis, c'est des questions de goût.
Il n'y avait pas d'unanimité, là, comme tout le monde a dit que ça aurait dû être
non,
là,
c'est vraiment juste des trucs de goût. Vraiment, tu sais. Moi, c'est ça que je voudrais, mais si tu as des options qui sont offertes, c'est vraiment comme juste des questions de goût.
Ouais, et puis ça, tu aurais mis n'importe quelle machine, il n'y a pas personne
qui aurait... Exactement.
OK, y a-tu d'autres points que tu veux rajouter sur la démo en général?
Encore, merci beaucoup, beaucoup à tout le monde qui sont déplacés. C'est vraiment plaisant quand on fait une activité ou une journée comme ça, puis qu'on a le monde qui prend le temps de se déplacer, venir voir. C'est plus encourageant. Merci aux propriétaires du terrain, Jonathan Burns, qui nous a prêté une partie de son terrain pour faire la coupe. À part de ça, merci.
Des démos sur le 612, je sais que c'était la première fois aussi qu'on le voyait travailler, le porteur de Barco aussi, le 612. T'as-tu...
J'ai pas vraiment eu de feedback, je me suis plus occupé de la bûcheuse. C'est lui qui s'est plus occupé.
C'est sûr que la bûcheuse,
j'en avais plein. À chaque fois qu'il y avait un nouvel opérateur, il fallait que j'aille reprogrammer tous les boutons. Puis ça, c'est quand je me plantais pas trois fois en me rendant à la machine. J'ai pas eu vraiment de commentaires du 612, juste parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais le 612, comme que je dis, rapport qualité-prix, simplicité du produit, je pense que c'est un produit aussi que les gens ont apprécié.
Ouais, je l'ai vu travailler, puis c'était très impressionnant. À reculons, en avant, il passait d'un trait, l'intrus par-dessus toutes les souches. Il n'y en avait pas de problème.
Ça a vraiment bien travaillé. Puis tu sais, on va avoir la vidéo...
Oui, absolument.
Je vais être disponible bientôt, justement, de la Barco. Fait que les gens pourront avoir.
Ça. J'ai pris en masse d'images de la Barco au travail. Ça, j'en ai en masse. Le 612 aussi, j'ai plusieurs images. C'est sûr que ça fait moins de travail différent, un 612. Ouais. C'est juste ramasser les branches. Mais c'est sûr qu'on va avoir des vidéos pour tout ça qui vont venir au cours des prochaines semaines. OK. Mais je pense que ça fait le tour de la démo. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, qui sont déplacés, les propriétaires, les employés aussi qui nous ont aidés. Ça a été un succès la journée. Tout le monde a apprécié.
Merci beaucoup, merci Timo, d'être venu faire ton tour.
Ouais.
Andrew aussi de Barco qui était présent. Donc, je pense que c'était vraiment plaisant d'avoir tout le monde là pour pouvoir répondre aux questions le plus possible.
Excellent. Fait que on enchaîne avec une question du public. On demande tout le temps aux gens s'ils ont des questions. Puis encore une fois, on a été chanceux d'en avoir une. On change un petit peu de sujet, on s'en va dans un autre domaine. Mais la question est la suivante. Comment fonctionnent les différents types de joystick, électroniques ou non? Bon. Tom, je pense que ça aide.
Quand on dit joystick, on parle dans le fond un contrôle à distance, si on veut le dire de la manière appropriée. Donc, on parle d'un contrôle ou un joystick, un bâton. Qui nous permet de contrôler la valve de la machine à distance. Donc, en général, il y a trois types de joystick qu'on va retrouver en général dans tous les types de machinerie. On va avoir soit le joystick à câble, on va avoir un joystick hydraulique, qui utilise un pilotage hydraulique, et puis un joystick qui est électronique. Le plus commun, je te dirais, dans toutes les applications, dont exactement l'excavatrice, ça va être le joystick qui est piloté hydraulique. Pourquoi que les manufacturiers utilisent ça? Le joystick piloté hydraulique est là depuis très très longtemps. Et puis, c'est quelque chose que les manufacturiers sont habitués d'utiliser, qui donne un type de contrôle au niveau des opérateurs qui est... je pourrais pas dire... Ça donne un feedback, mais il y a un léger... T'as un feeling un petit peu plus ardu au niveau des joysticks. Une autre raison pourquoi les manufacturiers vont utiliser l'hydraulique, c'est que ça simplifie un peu le système de la machine. Par contre, ce qui m'amène au troisième type de joystick, qui est le joystick électronique, on est en train de voir un changement au niveau du choix des manufacturiers pour les joysticks qui s'en vont plus vers le joystick électronique. Avant, si on recule de là, le coût d'un joystick électronique était très très dispendieux pour un manufacturier. Et puis, la réception du produit des clients n'était pas à son top. Ce qu'on est en train de voir, c'est l'inverse. On voit beaucoup, beaucoup plus de manufacturiers, surtout en foresterie, qu'eux autres sont déjà avec des joysticks électroniques depuis des années. Et puis, dans la machinerie de construction, c'est quelque chose qu'on commence à voir le changement. Aller au joystick électronique, qui offre beaucoup, beaucoup plus d'avantages maintenant qu'un joystick hydraulique. Au niveau du contrôle, l'opérateur a beaucoup plus d'options de contrôle qui est capable d'ajuster à son goût versus un joystick hydraulique qui est preset, c'est un setting, c'est comme ça. L'installation, le coût d'installation, donc on n'a plus besoin de boyaux hydrauliques sans mon joystick, c'est vraiment un fil électrique. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à s'en aller vers l'électrique, puis je pense que c'est quelque chose qu'on va voir dans l'équipement de construction de plus en plus s'en venir dans les années qui s'en viennent.
OK. Je pense que la question était vraiment au niveau du fonctionnement, fait que je sais pas si tu peux partir.
Le fonctionnement du joystick, dans le fond, ce que ça sert à faire activer le spool ou la valve en tant que telle, fait que l'envoyer dans la direction A ou direction B. Un joystick hydraulique va servir d'une pression de pilote qui est autour de 400 livres. Et puis, il va faire envoyer cette pression de pilotage d'huile-là de un côté ou l'autre côté du spool, dépendamment du mouvement qu'on va faire. Puis aussi avec une proportionnalité, fait que dépendamment où ce qu'on est placé. Le joystick électrique va faire exactement la même chose, contrôler le même spool, sauf qu'au lieu d'envoyer un signal hydraulique, il va envoyer un signal électrique à la valve pour faire le même mouvement. Okay. C'est vraiment le fonctionnement du joystick. Quand on parle d'un joystick à câble, c'est vraiment de contrôler le spool. Puis d'une manière proportionnelle. Puis ils font tout le même fonctionnement, c'est juste qu'ils le font de manière différente.
Ouais, puis je sais que tu avais déjà expliqué, là, on avait fait une vidéo, je pense que c'était quand on avait fait une journée de formation, tu avais expliqué exactement les composantes d'un joystick. Fait que si jamais. Ouais.
Si vous avez des questions, lâchez-nous un coup de fil, département de pièces, si vous voulez faire un remplacement d'un système. Vous construisez votre système, on a vraiment tous les types de joysticks ici. Fait comme je dis, il y a des coûts différents pour différents types de projets. Il y a des joysticks qui sont mieux adaptés à certains systèmes hydrauliques. L'autre chose qui est très important, quand on sélectionne un joystick, il faut être sûr que la valve en tant que telle soit compatible avec le joystick.
OK. Bon, je pense que ça répond super bien à la question. Si jamais, je pense que c'est Alexandre qui nous a soumis cette question-là, si tu veux... N'en rajouter, si jamais tu veux demander plus de technicalité, ça fait plaisir.
Continue de nous envoyer des messages. Notre page Facebook est là. Vous avez d'autres suggestions, d'autres questions, gênez-vous pas, ça va nous faire un plaisir de répondre
à vos questions. On apprécie absolument, mais on en a besoin pour faire d'autres contenus. Je pense, pour terminer, vu qu'on vient de passer une semaine où il y a eu plusieurs manifestations sur l'environnement, la terre, toutes ces choses-là, j'aimerais ça vous poser la question parce qu'il y a des gens qui... Couper des arbres, c'est pas nécessairement bon pour la planète, mais je pense que ça a des très bons aspects aussi. Peux-tu nous développer un peu là-dessus?
Moi, de mon point de vue personnel, et non, je ne suis pas backé par 4 ou 5 universités, moi, je vois la foresterie comme étant une matière renouvelable, au même type qu'une culture de maïs ou une culture de foin. Donc, si on cultive nos forêts correctement en faisant des coupes sélectives, ça devient vraiment comme au même type qu'un fermier qui cultive son champ de maïs. Donc, à chaque année, on peut le replanter, ça repousse, ça se régénère. D'un autre côté aussi, je pense qu'on est capable de faire beaucoup, beaucoup de produits dérivés de la foresterie qui pourrait remplacer beaucoup de plastique. Bon, aussi à Sherbrooke, on le voit déjà avec les lois qui sont passées contre les pailles en plastique qui remplacent par des pailles en carton. Le carton qui est un dérivé du bois, de la fibre de bois. Fait que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait. Puis comme j'ai vu que c'est une ressource renouvelable, c'est important de l'utiliser correctement et puis de s'en servir. Faut pas oublier aussi que, parce que là j'ai vu beaucoup d'affaires comme quoi on coupe, ça déprive la terre de l'oxygène, tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont mal informés aussi à ce sujet-là. Surtout ça, je pense. Il y a vraiment prendre le temps de s'informer avant de porter des commentaires. La génération d'oxygène, de CO2 dans une forêt, c'est quelque chose qui varie énormément. Souvent, la génération d'oxygène d'un arbre va être, tu sais, vraiment plus grosse dans sa croissance. Et non, quand l'arbre est mature, il ne fait quasiment plus rien. Aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un arbre qui est en train de pourrir en forêt va générer, produire aussi du CO2 et d'autres choses qui n'est pas pire que quelqu'un qui chauffe au bois, exactement.
Oui, fait que on est mieux de les couper avant qu'ils...
Exactement.
Ensuite, on laisse la place. Puis généralement, quand les gens font des coupes, ils sont obligés de replanter des arbres, ce qui n'est pas le cas si l'arbre tombe par lui-même.
C'est ça.
Puis bon, je pense aussi que une grande partie des gens pensent vraiment... au passé, c'est-à-dire qu'on faisait des grosses coupes à blanc et qu'on ne plantait pas, il n'y avait pas vraiment de structure pour regarder vraiment que ce soit tout fait correctement.
Je pense que c'est idéal de t'avoir ici parce que toi, je pense que tu voyages beaucoup. Puis les gens parlent de au Brésil, je pense que tu voyages dans ces coins-là pour la foresterie.
Moi, non, mais bon, on a une autre personne qui s'occupe de.
Est-ce que vous croyez que c'est vraiment de la coupe à blanc là-bas ou est-ce que. Est-ce que c'est ça que les gens ont en forêt, là? C'est l'Amazonie qui est coupée à blanc, puis les animaux, ils n'ont plus de maison.
Là-bas, c'est complètement différent. Ils font vraiment des coupes à blanc pour faire autre chose là. Mais par exemple, par exemple au Brésil ou au Chili, on a beaucoup de plantations d'eucalyptus. Donc là, oui, ils font beaucoup de coupes à blanc, mais bon, c'est replanté de suite après.
Ouais,
ça repousse. Tu sais, l'eucalyptus repousse extrêmement vite.
En 10 ans, il arrive déjà à maturité. Donc, grâce à ça, ils vont faire du papier. Bon, ce qui s'est passé, par exemple, récemment, dans les forêts amazoniennes, tout ça, ça n'a rien à voir avec vraiment la foresterie. Là. C'était vraiment...
C'est ça.
Ouais, puis, les feux de forêt.
L'autre chose qui est important à savoir, c'est que... Puis ça, je peux en parler parce que je l'ai vu vraiment demain quand je suis allé au BC. La forêt là-bas, l'entretien justement d'une forêt va prévenir justement ou, tu sais... empêcher la propagation de feux de forêt. Quand une forêt est entretenue et que ça pousse pas, tu sais, puis que les forêts sont propres, ramassées, cultivées, ça va empêcher les feux de forêt, parce que la Californie souffre énormément comme c'est là, la Colombie-Britannique. Et puis, c'est justement, eux autres sont en train de faire un tournant vers une cultivation de la forêt, un éclairci pour pouvoir empêcher ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits à la foresterie de nos jours. Je parle pas, oui, ce qu'on a fait dans le passé, c'était peut-être pas le meilleur, mais ça a énormément évolué. Beaucoup de gens pensent encore à l'erreur boréale. Des coupes qu'on a faites dans le nord du Québec, ça a changé, c'est plus ça. Les médias font un excellent job à montrer le pire et le chaos, mais en réalité, prenez le temps d'aller voir votre forestier local. Allez voir son chantier, prenez 5 minutes, allez voir qu'est-ce que cette personne-là fait exactement. Je pense que ça vaut vraiment la peine, puis je suis convaincu qu'il n'y a pas un contracteur qui va prendre 20 minutes, une demi-heure de leur temps pour montrer exactement c'est quoi qu'ils font en tant que contracteur en foresterie. Les autres font vraiment une cultivation, vont prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils coupent cet arbre-là versus l'autre à côté. Je pense que c'est important de prendre le temps d'aller voir c'est quoi vraiment la foresterie moderne de nos jours.
Ouais, puis c'est pas juste focusser sur le négatif. Dans tous les points, il y a du positif puis il y a du négatif. Puis je pense que quand on prend le temps de le regarder ça, il y a beaucoup plus de positif qu'il y a de négatif.
Ouais.
Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Je voulais juste rajouter ça parce que je pense que ça a été un débat qui était assez chaud cette semaine. Fait que je pense que c'était pertinent d'en parler un peu. Merci beaucoup, Timo, d'être venu nous visiter, d'avoir pris le temps de venir sur le podcast pour nous dire. Je pense que ça a été super intéressant. La prochaine fois que tu reviens, on refait ça. C'est certain. Merci beaucoup, Tom.
Merci beaucoup.
Toujours pertinent. Merci tout le monde qui nous a écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, gênez-vous pas, notre page Facebook, le site web, lesequipementsmarquis.com. Le numéro de téléphone, Tom?
819-822-3382.
Parfait. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.
Salut. Salut.